Et il est bien évident que c'est in extremis que Joseph va se reprendre, mais il va abandonner la majeure partie de sa force. Et le Midrash ne dit pas si ces gouttes de semences qui sont sorties de ses doigts féconderont des tribus égyptiennes, mais enfin, il suffit déjà d'entendre cela, que sur les 10/12 de lui-même, Joseph se perd, dans l'effort qu'il fait pour se sauver. Et on ne peut pas ne pas être frappé de voir cela, à quel point, lorsque la convergence de l'histoire de l'exil propre à la communauté juive et des civilisations chez qui cette communauté juive voyage arrive à ce point-là, on ne peut pas être frappé que chaque fois c'est un aléatoire extraordinaire. Et Joseph aura-t-il la force de s'enfuir des mains de la femme de Potiphar et dans quel état? Et voilà ce que je voulais en tout cas signaler avant d'aller plus loin, mais là je voudrais vous donner une lecture assez rapide de la suite pour que nous comprenions à quel point la femme de Potiphar a été frustrée et à quel point sa colère qui va mener au fait que Joseph sera jeté dans la fosse, d'où finalement il sera sorti pour expliquer les rêves du Pharaon, mais où va être jeté, si j'ose dire, dans son camp de concentration, à quel point cette colère est énorme. Il m'est arrivé une fois, je ne sais plus quelle année, en parlant de ce texte, de dire qu'elle était en fureur. Mais de notre temps, nous avons connu fureur au masculin. Mais c'était cette fureur-là. Voilà ce qu'elle raconte. À partir du verset 14, « Vatikra le'anche beta » Elle appelle les hommes de sa maison. « Vatomer la'em le'mor » Et elle leur dit ceci, « Réou, regardez, et vi lanou ish ivri vetzachek banou » Il nous a amené un homme hébreu pour se moquer de nous. Première traduction. Les Midrashim disent « Vetzachek banou lachon tashmish » Il nous a amené un homme hébreu. Et elle dit « Ish ivri », elle ne dit pas un esclave, elle ne dit pas un enfant. Nous avons les autres expressions « Nahar ivri »,« Eved ivri ». Mais « Ish ivri », un homme hébreu, « Letzachek banou », pour coucher avec moi, littéralement, mais dans le sens d'une accusation. Regardez ce qu'il m'a fait. Ce qu'il ne m'a pas fait, il faudrait traduire. Et la deuxième lecture, c'est la lecture de la plainte. Mais je vais d'abord lire la lecture de l'accusation et de la revendication. Regardez. Il nous a amené un homme hébreu pour se moquer de nous. Baela, il est venu vers moi, l'ishkab imi, pour dormir avec moi, vaekra de kolalado, alors j'ai crié avec une voix forte. Vaï, keshomro, ki arimoti koli vaekra, et il arriva, lorsqu'il a entendu que j'ai élevé la voix et que j'ai appelé, vaeazov bigdo etzli, il a abandonné son vêtement auprès de moi, vaeanos, et il s'est enfui, vaeetzaroussa, il est allé au-dehors, il est sorti au-dehors. Voilà. Premier épisode. Alors, qu'est-ce que vient faire tout ce texte? Je vous ai dit qu'il ne s'agissait encore une fois que de petites historiettes, et on se demanderait quel titre nous servirait de modèle pour nourrir la ferveur de piété, de lecture, de compréhension de la révélation de la Torah pendant des milliers d'années. Qu'est-ce que ça vient faire cette histoire-là? Normalement, comment ça se passe? La honte pour la princesse égyptienne d'avoir été tournée en dérision par un esclave hébreu l'aurait menée à se taire et à le faire massacrer par ses sbires, mais sans problème et sans difficulté, à la Borgia, et puis c'est fini. Vous comprenez l'étonnement au niveau même de l'exégèse. Alors je vais donc entreprendre une deuxième lecture, avec bien entendu les mêmes mots, mais à un tout autre niveau. Et c'est plus du tout qu'elle se plaint dans le sens de la revendication, de l'accusation. Elle se plaint dans le sens de la plainte. Dire, elle va l'accuser de s'être dérobée. Ce n'est pas qu'elle va l'accuser de l'avoir voulu la violenter, elle va l'accuser de s'être dérobée à ce pourquoi Potiphar l'avait fait venir à travers le voyage de caravane. Cet homme hébreu dont la vocation est de savoir féconder la civilisation de son temps. Et il me suffit d'avoir dit cela pour que vous compreniez la suite. Mais est-ce que c'est suffisamment clair? C'est-à-dire très très souvent et très longtemps nous avons joué à cela. Nous avons joué à séduire l'humanité en lui disant « Regarde comme je suis beau, le salut est possible. » Et puis au moment où l'humanité dit « Ben viens, donne-moi le salut », alors on se déprend, on laisse le déguisement, et on dit « Non, non, je suis un hébreu, laissez-moi rentrer chez moi. » Et alors, fureur. Et vous voyez de quel piège Joseph se sort. Il est bien évident que cette femme de Potiphar, c'est une méchante femme dans le texte. Mais j'essaie de vous faire comprendre ce qu'avait dit le Midrash que j'ai cité hier avec Rashi. Elle était l'Echem Shamaïm. Elle a l'exigence du salut de son humanité. Et voilà que le Sauveur est là. Bon, vous avez compris, le sens n'ayant pas le mot chrétien. Le fécondateur est là. Mais voilà que ce méchant ne veut pas. Mais vous voyez ce qui va nourrir une certaine forme d'antisémitisme en fureur. Alors si c'était comme ça, ne me séduis pas. Une espèce de coquetterie dangereuse. Simplement la présence de Joseph en Égypte fait que les femmes l'aiment. Les femmes, ça veut dire quoi? Celles qui sont capables de continuer l'histoire des engendrements, tout simplement. Et puis, c'est ce que la femme de Potiphar réclame de lui. Et au moment où elle va être enfin satisfaite, alors il y a la plus grande frustration qui soit possible. Je croyais, parce que tu me l'as dit, dans tes yeux, dans ton sourire, dans ton hébreu, dans ta barbe, que le salut était possible. Et voilà que maintenant, que je te demande en quoi il faut croire, tu me dis je suis athée, etc., etc. Enfin, ça peut être lu dans tous les... à tous les niveaux. Et donc voici quelle est cette deuxième lecture. Vatikra le Anshe Veta, elle convoqua les responsables, les Anashim, les... vous avez compris en hébreu, Anashim. Non, c'est moi qui dois traduire d'ailleurs. Elle convoqua les personnalités de sa maison. Vatomera Ehem, elle leur dit, en ces termes, Réhou, regardez, et vilanou ishivri le tzachek banou. Il nous a amené, elle parle de Potiphar, l'homme hébreu, le tzachek banou, pour mettre le rire en nous. On ne savait plus rire dans ce temps-là. C'est un descendant d'Isaac, ce Joseph-là. Le tzachek banou. Baela ishkavimi. Et puis en fin de compte, enfin, c'est moi qui ajoute enfin, il est venu vers moi pour dormir avec moi. Va écrab et kolgadol. Alors j'ai crié d'une grande voix de joie, et plus que de joie. Et enfin, vous comprenez ce qui se passe là, dans cette deuxième nuit. Alors, va écrab et kolgadol. Et il faudrait lire même, j'ai invoqué avec la voix du grand, kolgadol. Va y keshomo. Et alors voilà, quand il a entendu cela, mon cri de triomphe, qui a rimoti koli va écrab, que j'ai été capable d'élever la voix et d'invoquer. Va y azo bigdo etzli. Il a abandonné son déguisement auprès de moi, Vayanos, et lui s'est enfui, Vayetsa Hutsa, et il est allé en dehors, s'occuper d'autre chose. Ouais. Attendez, oui, juste un mot, et après vous poserez votre question, c'est plus fort, après j'ai pas entendu. Et l'image que je voudrais indiquer ici, c'est une image que j'ai appris dans les récits de chasse, le leurre, où on attire le gibier avec un leurre. Et puis cette énorme frustration qu'on a trouvé qu'un bégued, qu'un leurre, et pas ce que l'on espérait. On ne dit pas ce que l'on cherchait, ce que l'on espérait. Ici, ce récit est tragique pour l'Égypte de ce temps. La femme de Potiphar porte une espérance du salut, et puis elle est frustrée. Alors vous allez me dire, mais enfin, d'où ça sort cette lecture-là? D'où sort cette lecture? Mais c'est tout simplement la condensation, la récapitulation de tous ces midrashim que vous étudiez, lettre après lettre, mot après mot, à la lettre. Il faut prendre, comme disait M. Levinas, il faut prendre l'esprit à la lettre. Et ce livre-là, il faut le prendre à la lettre. C'est-à-dire, il faut le lire à la loupe. Et il y a là la condensation de nos thèmes d'identité. C'est notre carte d'identité. Et bien entendu, il y a, comme je vous dis peut-être souvent, du point de vue de la méthode, un double mouvement. C'est le mouvement qui va du texte à l'histoire, et le mouvement inverse qui va de l'histoire au texte. Et ce que j'essaie d'exprimer ici, et en général dans les thèmes que nous étudions, c'est cette espèce de certitude, de précision avec laquelle le texte nous raconte notre histoire. Parce que c'est cela que nous avons vécu, alors nous sommes capables de lire le texte. Si nous n'avions pas vécu cela, ce texte ne nous dirait rien, à nous lecteurs. Je pense que c'est clair. Et alors là, je crois qu'il faut bien réfléchir à ce danger, à ce risque de cette première partie de l'histoire de la vocation de Joseph. Elle est d'un péril extrême. Il va se dévoiler. Il se dévoile déjà là, que Joseph et Tzadik. Il ne se laisse pas faire. Hein? Mais est-ce qu'il sait, dans un autre sens qu'hier, est-ce qu'il sait ce qu'il fait, hein? Il y a là un risque inouï. Voilà pourquoi, ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas fini de citer la question qu'on m'a posée, nous n'avons pas le droit de prendre ces exemples comme modèle. Je voudrais modifier le vocabulaire. Parce que lui, Joseph, est capable de faire ce qu'il fait. Il le fait à titre de l'échelle collective d'Israël. Mais moi, chacun, tout un chacun, est-ce que nous allons être capables de vivre cette histoire jusqu'au bout? Est-ce que nous n'allons pas nous perdre entre les bras de la femme de Potiphar, comme d'ailleurs pour l'histoire d'hier? Est-ce que nous n'allons pas nous arrêter à un certain moment du verset et pas aller jusqu'au bout? Et tant qu'on est en cours d'histoire, c'est l'échec. Est-ce que c'est bien clair? D'une certaine manière, je dirais ceci. Il faut savoir qu'ils sont nos modèles, mais pas faire comme eux. Parce que tout simplement, eux agissent à l'échelle d'une destinée collective, totale, récapitulée, les personnages du récit. Et nous agissons à l'échelle ponctuelle de l'histoire individuelle, lorsqu'un individu se prend pour son peuple tout entier, c'est très exactement la folie des grandeurs. Chaque mot ayant le sens simple qu'il a dans le vocabulaire clinique. Et la folie des grandeurs. Il faut bien faire attention à cela. Je vous avais cité le Nefesh Haïm, qui parle beaucoup de cela. Surtout ne jamais tomber dans ce piège de mauvais goût, de croire, eh bien, voilà, c'est ce que Joseph a fait. Eh bien, c'est ce que je fais. Oui, mais Joseph, c'est pas toi. Je pense que c'est clair. Oui, vous vouliez poser une question. Plus fort, parce que... trop rapidement, mais c'est pas du tout parce que je parle au masculin, c'est parce que le texte parle au masculin. Non, c'est parce que le texte parle au masculin. Ici, dans ce rapport, c'est Joseph l'hébreu qui est au masculin, et c'est l'Égypte égyptienne, Putiphar égyptienne qui est au féminin, parce qu'elle est la matrice à féconder, simplement. Je l'ai dit dans une phrase en disant à quel point nous avons aimé Madame Putiphar, d'accord ? Et c'est vrai que nous l'avons aimée, et pas seulement nous sommes fait aimer d'elle. Si Joseph s'était expliqué avec la femme de Potiphar et en lui faisant comprendre que lui aussi l'aimait et pas seulement ce qui est indiqué par le texte qu'elle était séduite par lui, peut-être que la femme de Potiphar aurait accepté de faire comme Tamar et se convertir à l'identité hébraïque. C'est moi qui continue, mais enfin, c'est ça que vous voulez. Ah non, alors là, je peux dire que, en fait, ce qu'elle veut, c'est porter un enfant, porter un avenir. Ce qu'elle veut, c'est recevoir une semence. Et bien entendu que cela n'est pas possible s'il n'y a pas amour. Mais ici, sa frustration ne porte pas tellement. Parce qu'après tout, elle pourrait satisfaire cette avec une autre société exotique. Hein. Bon, le salut ne vient pas des Juifs, et bien il viendra des Indiens, des Hindous, il viendra des Japonais, il viendra des Chinois. Enfin, je pense à un Égypte qui serait l'Occident. Il viendra de, comment on appelle ça, Katmandou, Mamashukaze, le Tibet. Bon, mais dans tous les cas, c'est l'Orient, puisqu'il faut s'orienter, alors on le cherche là-bas. Mais je crois que ici la frustration est très grave. Ce rire dont il est parlé là, ce rire, c'est celui de qui s'annonce dans le sourire de la Joconde, c'est-à-dire de la femme fécondée. Écoutez, j'ai pu faire dans les études de ce texte un long effort d'imagination pour essayer de comprendre ce que les non-juifs disent à travers les siècles, le salut vient des juifs, puisque c'est un thème qui se relie à cela. Et pour essayer de comprendre la frustration, donc, lorsqu'il ne vient pas. Alors, imaginez qu'à la place, de court-circuiter les religions bibliques. Tout simplement, la présence de l'être juif dans les sociétés civilisées, d'une façon générale. Et toute cette énorme séduction réciproque dont vous avez aussi parlé, mais à un certain moment, la frustration totale lorsqu'on se heurte au mystère. Ah, ça tu peux pas être, ça tu peux pas comprendre, ça c'est un nouvel Camus, ça c'est pas pour toi. Vous comprenez, c'est très dangereux, c'est très... Il y a ici une espèce de stratégie de coquetterie qui est très dangereuse, que nous avons payé cher. Nous l'avons payé lorsque Joseph tombe dans la fosse. Et voilà la cause de
votre
vous savez que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, tout ce qui fait que l'on peut vivre. Et ce pain-là, c'est la présence qui est le pain. Et je vous signalerai un très beau texte de Claude Vigier, que vous avez peut-être lu. Je ne sais plus comment s'appelle son dernier livre.
Délivrance.
Très bien. Il y a à la fin du livre un très beau poème, et où Claude Vigier cite les différents niveaux des trois lettres qui forment tous les mots que l'on peut faire avec les lettres du mot lèche. Melach, Lechem, Melach, Achlama, la guérison, Machol, la danse, mais surtout Halom, le rêve. Halom, le rêve. Et bon, il y a là un thème de Kabbalah qu'il a repris de manière poétique. Je dois dire que pour une fois et une rare fois, lorsque je lis ces transpositions, c'est vraiment réussi. Et c'est un compliment que je lui fais. Et c'est pas facile de réussir cela. Eh bien, tout ce qui est nourriture pour la vie est appelé le pain en hébreu. Et donc, sa femme, il ne peut pas la féconder, mais elle le fait dans la mesure où Joseph refuse de la féconder. Mais ce qu'elle réclamait de Joseph, c'était pas d'être son pain, c'est que lui soit sa vie, que lui la vie.
Il y a un midrash qui dit que Potiphar était initialement homosexuel et par la suite est devenu, a été castré et il s'est appelé Potiphar.
Je n'ai pas voulu citer ce midrash parce que j'ai déjà eu une implication scabreuse, mais en fait, puisque vous l'avez cité, l'histoire est beaucoup plus profondément complexe. Esclave pour s'en servir lui. Il en a été puni, et alors, d'où le deuxième épisode, donc sa femme. Bon, c'est un niveau encore beaucoup plus profond de la dénaturation d'identité d'une civilisation à son apogée, et ce que l'identité hébraïque lui apparaît comme perspective de salut possible. Et j'ai voulu surtout indiquer l'harmonique du thème. Qui concerne tout simplement notre histoire existentielle. Je dirais aussi un peu autrement dans les sujets qui m'occupent en général dans mes études, c'est ceci. C'est que il n'y a pas de doute que relativement au petit nombre de la population juive dans le monde, la plupart des messages de civilisation viennent des juifs. Je dis bien relativement au petit nombre. C'est une question de yahassit, comment dit-on cela ? Relative. Je ne veux pas du tout dire que les juifs sont les seuls porteurs d'espérance, mais enfin qu'il y a une proportion des messages qui viennent de juifs. Et nous vivons à chaque époque le fait que l'humanité, pensons surtout à l'Occident, qui est une civilisation très ancienne, qui a déjà depuis longtemps connu son apogée, et qui se trouve à court d'espérance depuis longtemps. Et voilà qu'elle sait, elle le sait confusément, plus ou moins consciemment, plus ou moins inconsciemment, mais elle sait ce que la parole chrétienne a dit, que le salut vient des juifs. Enfin, que quand il y a salut, ça vient d'un juif. C'est pas la peine de faire des chronologies et des bilans. Enfin, c'est considérablement impressionnant le fait de voir à quel point l'identité juive est occupée à essayer de donner à espérer à l'humanité, surtout quand elle en a besoin. Mais inévitablement arrive ce moment-là de la frustration. En particulier, je suis parfait de ce fait. Prenons par exemple l'épisode des nouveaux philosophes. Bon, les nouveaux philosophes, en grande partie, sont aussi des juifs. Mais il y a très longtemps que j'avais remarqué cela dans d'autres époques. Et alors, lorsque on est dans l'attente de l'écoute d'un message d'espérance, et surtout lorsqu'on est, non pas Joseph, qui sait que quoi qu'il en soit, il a encore un père, il a encore des frères, et que même s'il fait semblant de ne pas croire, Israël s'accroît. Non, dans le sens, c'est dit. Qu'il y a une réserve d'espérance quelque part, là où Israël n'est pas Joseph, là où Israël est Joseph, je veux dire, et Jacob. Eh bien, si vous voulez, d'une certaine manière, et même lorsqu'un juif ne croit plus, alors j'en pense là au niveau du problème de l'espérance, je ne parle pas au niveau théologique, mais même lorsqu'un juif ne croit plus, il y aurait toute une réétude de l'Ecclésiaste à faire à ce niveau-là. La manière naturelle des sociétés, c'est d'arriver à la désespérance des sociétés non juives, alors que la manière naturelle de la société juive, c'est l'espérance. Et je crois que ce n'est vraiment pas simplement une coïncidence ou un hasard que ce soit notre champ national. La Hatikva. Mais lorsqu'un juif désespère, c'est pas normal. Et lorsqu'un non-juif espère, c'est pas normal. Et au point que il est presque obligé de prendre une apparence d'anormal, et on le désigne comme tel, ah, il est mystique, il est croyant, c'est anormal, pour se donner le droit d'espérer. Mais que la manière naturelle, c'est la désespérance. Bon, toutes ces grandes philosophies de la fatalité, de l'absurde du monde, nous baignons dans une atmosphère de culture générale de cet ordre. Et donc, voilà cependant que cette espèce de coquetterie recommence chaque fois. Hein, tu parles, tu nous dis quelque chose, qu'est-ce que Dieu dit ? Dieu, je ne connais pas, je suis athée. Et alors, réaction de fureur. J'interprète cette forme de l'antisémitisme, de la fureur, pas du fureur, mais de la fureur, est en bonne part. Je me fais presque l'avocat du méchant, mais pour essayer de mettre en évidence le caractère périlleux de cette rencontre-là et de la frustration qui en résulte. Si vous voulez, la clé de cette lecture, c'est le terme le tzachekbi. Et le rire de la fin des temps est réservé à l'identité hébraïque. Il rira, Yitzhak. Le monde ne peut pas rire tant qu'il est dans l'état où il est. Mais voilà que quelque part se prépare le rire de la fin des temps. Et le porteur de ce rire est attendu partout. Et voilà que on n'entend que des ricanements, mais le rire, vraiment. Et alors, frustration énorme, et la femme de Potiphar, vous voyez bien comment le Midrash avait diagnostiqué son Lechem Shamaim. Elle voulait que l'hébreu lui donne le salut. Alors ça ne veut pas dire que Joseph n'est pas capable de le lui donner, mais dans cette rencontre-là, dans cette première manière, il y a danger et échec. Et nous verrons, nous aurons l'occasion plus demain de voir la deuxième période de la messianité de Joseph. Mais comme chez Judas, il y avait deux périodes, Knaan, et ça mène à l'échec, Tamar, et c'est la perspective de réussite. Ici, la femme de Potiphar, ça mène à l'échec, Asnat, c'est la perspective de réussite. Ça, nous verrons plus en détail demain. Oui, monsieur d'abord. Plus fort.
Les Hyksos ont formé en Égypte deux dynasties et la montée des Juifs à partir de Joseph serait due au fait que les Hyksos étaient étrangers au pays et que donc ils avaient intérêt à donner une ministère ou en tout cas une fonction importante à des étrangers également. Et il prétend que par la suite, les Hyksos qui ont été chassés du pays par les Égyptiens, étaient donc en quelque sorte, comme on dirait, des collaborateurs, en ont subi les conséquences.
Et
je voudrais savoir si cette théorie tient historiquement ou pas.
Bien, écoutez, comme beaucoup de théories, comme vous dites, elle est basée sur des petites traces archéologiques reconstituées par interprétation, par la conception des historiens qui se font les romanciers de l'histoire. Si j'ose dire. Le point que tout ce. Il y a une indication traditionnelle qui converge un peu à ce que vous dites, c'est qu'il y a eu une époque où, très évidemment, il y a eu une dynastie monothéiste en Égypte. Et donc, on voit bien ce que le Midrashim nous indique de la tentative de transfiguration, de sanctification de la société égyptienne par ce que vous appelez les Juifs venus avec les Hyksos. Et les textes auxquels vous faites allusion les appellent aussi les Ibrim, pour dire les Hébreux, puisqu'il n'y avait pas de Juifs à l'époque, mais d'Hébreux. Et il y a là une convergence. Mais en fait, ce que je voulais analyser de façon bien plus précise, c'est la manière dont ce texte éclaire, non pas l'archéologie, mais notre histoire contemporaine, celle de notre dimension d'exil dans la civilisation contemporaine. C'est cela qui est extrêmement frappant. Il est bien évident que c'est le souci du Midrash. Le souci du Midrash interprète le texte hébraïque pour le faire comprendre aux Juifs. Et c'est ce que je dis souvent, essentiellement du commentaire de Rashi, qui est la récapitulation du Midrash pour la lecture juive de la Bible hébraïque. C'est dans cette méthode-là que je pense que ce message est extrêmement important. C'est de nous faire comprendre que dans la dialectique générale de ces deux tentatives messianiques après Jacob, Israël, à la manière de Yehuda, Bet Israël en hébreu, décroché des civilisations extérieures. Et que cela ? Et parce que bilan négatif de la tentative antérieure de l'exil de Jacob chez Laban. Ou la dimension Joseph, reconduire ce rêve des patriarches, transfigurer la femme de Potiphar. Là, dans cette dimension de Joseph, s'attache un péril particulier, celui de la frustration de la femme de Potiphar. Ce n'est pas pour rien que le texte de la Bible va très rapidement sur, vous savez, les petits versets qu'on a lus hier, qui étaient très denses, mais très rapides, sur Yehuda, épouse Batshuar, il en a Er, qui épouse Tamar, mais qui n'a pas d'enfant, Onan, tout ça, c'est des demi-versets très, très rapidement. Ici, c'est beaucoup plus fouillé. Comme si là, il y a un thème d'identité beaucoup plus ample dans son déploiement. Et j'ai tenu à isoler cette indication quant au risque qui s'attache à cette dimension Joseph. C'est-à-dire, bien entendu, l'historien et le sociologue peut expliquer la relation entre les Juifs et les civilisations ambiantes en utilisant les catégories classiques de la sociologie, la haine du métèque, la xénophobie, mais jamais on n'arrivera à indiquer l'accent particulier que la xénophobie prend lorsqu'elle est antisémitisme. Là, il y a un accent particulier parce que la frustration dont il s'agit, c'est pas simplement la frustration de l'étranger, collaborateurs, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus profond qui était en jeu et dont on avait été frustré.
Les Hyksos improvisent en fait un élément cosmopolite. Et c'est cela qui est important. C'est-à-dire qu'il y a donc là une civilisation qui n'est pas simplement nationale, parce qu'elle ne peut pas l'être, qu'elle a des éléments qui soient cosmopolites. Et on peut très bien dire, par exemple, en Allemagne, pendant très longtemps, Il y a eu ce que je veux appeler le Weltbürger, le cosmopolite, n'est-ce pas, puisque la main n'était pas unique, elle était composée d'un tas de petites principautés, et que c'est simplement au moment de la réaction contre ce cosmopolitisme et de l'éclosion de cet ultranationalisme que l'antisémitisme a commencé. Il est certain, par exemple, que durant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était beaucoup plus prosémite que les puissances alliées. Et cela avait été en général admis. Parce que précisément, n'est-ce pas, il n'y avait pas, parce que cet élément nationaliste s'est formé en Allemagne de façon tardive, alors qu'il préexistait depuis longtemps en France, voire d'ailleurs à faire des fusses. C'est-à-dire, je crois que même au sens symbolique, où vous prenez très justement ce récit, il me semble que cette question des Hyksos ajoute un élément.
Oui, l'élément que vous avez nommé cosmopolite, qui est indéniable, mais que j'appellerais peut-être universel. Il y a eu une tentative de la civilisation égyptienne d'être l'universalisme de Satan. Et il est évident que lorsqu'il y a une attitude pro-universaliste, alors, d'une certaine manière, provisoirement, pendant un temps, les Juifs ont aussi leur place. Mais très rapidement, la frustration prend un accent particulier contre les Juifs en particulier, et non pas en général contre le cosmopolitisme. Je sais très bien que c'est une des accusations de l'antisémitisme, d'accuser le Juif d'être cosmopolite. Mais malgré tout, je pense qu'il faut retenir cela. L'accusation de cosmopolitisme, lorsqu'il y a réaction nationaliste, touche les Juifs de façon particulière, comme s'il y avait quelque chose d'autre en plus qui s'ajoutait, que j'essaye de développer ce soir, une sorte de frustration spirituelle, et pas seulement une frustration par rapport à l'étranger. Oui. Attendez, vous allez avoir chacun dans l'ordre la parole, pas trop longuement, quoique j'ai mon temps, mais il se fait un peu tard pour les travailleurs. Écoutez, je pense que ce moment où Jean 23 a dit Joseph, votre frère, a été un moment très important. Et c'est vraiment dommage que l'histoire du monde, et la nôtre en particulier, qu'il soit mort si vite, si rapidement, si tôt. Je pense qu'il était absolument sincère. Peut-être j'aurai l'occasion demain de dire dans quelle dimension il s'est exprimé. J'essaierai demain d'expliquer, entre autres, une des dimensions de ce risque d'un Joseph qui irait jusqu'au bout, à devenir égyptien dans ce qu'a été le messianisme chrétien. Et c'est de ce point de vue-là que peut-être Jean 23 a parlé et l'a compris. Je ne pense pas qu'il avait ce type de Midrashim en tête. Mais ça se situe beaucoup plus tard, lorsque Joseph, sorti de la fosse, mis sur le trône de l'Égypte, recevra ses frères et leur montre que lui aussi serait capable de les mettre en accusation d'après sa propre conception de la messianité, de les punir, et que cependant il se révèle comme étant l'homme de fraternité. Et oui.
Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas prendre modèle sur des personnages comme par exemple celui de Yosef. Oui. Qui, à force de Midrash, deviennent presque mythiques, tellement leur exemple est inaccessible pour nous. Maintenant, j'essaie de formuler ma question parce qu'elle est assez floue dans mon esprit. Ce que je voulais vous dire, c'est que, les engendrements qui sont arrivés au Béné Israël, on aboutit, en dehors de quelques grands personnages, les prophètes, Moshe, David et autres, à un effacement total, un ensommeillement total du judaïsme, tant et si bien que la seule chose de positive, c'est ce que Claude Vigès, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dit, le juif est peut-être la seule chose qu'il y a qui reste petit, c'est qu'il essaye constamment de passer. On ne sait pas où, il essaye constamment de passer, comme le hébreu. Comment ? Peut-être, mais en tous les cas, c'est la seule. Et en dehors des quelques voix juives, comme vous avez dit tout à l'heure, qui s'élèvent et qui représentent la pensée et le positif, l'élément positif de ce monde, qui entre parenthèses sont toujours des éléments juifs déjudaïsés,
peut-être qu'ils font peut-être partie de Joseph dans la mesure où ils sont trop approchés des nations, ne représentent pas ceux qui seraient l'élément continuateur des Avot et du grand dessein juif. Où, je ne comprends pas cet ensommeillement et le fait qu'il n'y ait pas de prise en charge de ceux qui sont censés représenter la pensée de ces pères et de ces exemples qui peut-être sont devenus tellement hauts qu'ils sont inaccessibles pour les autres.
Je ne pourrais pas du tout prendre en charge tout ce que vous avez dit parce qu'il y avait, trop de choses, et, quitte à beaucoup de mises au point et de vocabulaire et de registres. Oui, mais je veux simplement isoler, disons, ce qui concerne notre sujet, enfin tenter de le faire. C'est la différence qu'il y a entre le Klal et le Prat. Ces récits nous montrent la constitution de l'identité collective d'Israël. Et nous avons affaire, là, dans ces récits, comme je le disais tout à l'heure encore, déjà depuis Abraham, c'est vrai d'ailleurs pour les personnages antérieurs à Abraham, pour beaucoup de personnages postérieurs, jusqu'à finalement, le Rosh Yeshiva contemporain. Ils sont des hommes qui, à l'échelle individuelle, vivent totalement un thème d'identité collectif. C'est l'identité Klal. Nous sommes les Pratim, nous sommes les individus de cette collectivité. Et par conséquent, nous vivons à l'échelle microscopique de notre destinée individuelle en participation avec des thèmes d'identité collective, ce qu'a été la vie individuelle de ces êtres qu'on appelle les Yechidim. Ils sont seuls, tout seuls, à être l'ensemble de la collectivité. C'est la première remarque, et je crois qu'elle est bien importante pour essayer de cadrer un peu les questions que vous avez posées. Lorsque nous lisons l'histoire d'Israël à l'échelle collective, c'est une histoire grandiose. Dès que nous commençons les chroniques de ce que font les individus à l'échelle individuelle, alors nous sommes ramenés au niveau que vous avez. Mais c'est, j'allais dire, c'est normal, c'est naturel. Le fait que l'histoire des individus puisse être médiocre, je ne dirais pas ensommeillée, mais puisse être médiocre par rapport à cette grandeur, n'empêche qu'en tant que collectivité, ils ont cette grandeur, en tant que collectivité. Et je veux dire quelque chose qui va vous faire sourire. Si un jour il m'arrive d'écrire un livre, j'écrirai un livre à la gloire de la grandeur du peuple juif, comme peuple juif. Et je crois que je n'aurai jamais l'intérêt de raconter l'histoire de monsieur un tel ou de monsieur un tel, de faire de la microscopie. Et dans ces thèmes d'identité qui se dévoilent dans l'enseignement de la Bible. Le peuple juif comme tel est à ce niveau-là, il est très grand. Mais dès que l'on se met à regarder le niveau de la vie banale, quotidienne, alors on ne perçoit plus ce qui se cache derrière. Et on ne voit que le prisme strictement individuel de médiocrité de chacun comme il est, et on ne voit plus de quelle identité hébraïque il participe dans son point d'insertion au clan, à la collectivité. C'est peut-être un peu ce thème-là, ce problème-là, qui explique votre question. Donc il est tout à fait normal que, dès que nous quittons les cinq livres du récit de la Torah, dès que nous commençons l'histoire de la société comme telle, au niveau des chroniques, il y ait cette chute d'intérêt. Ça commence déjà au livre de Josué. Histoire du Prat, mais qui est traversée, comme vous l'avez dit aussi, par l'apparence furtive, comme un clin d'œil de personnalités exceptionnelles qui continuent à leur manière, mais de façon cachée, voilée, camouflée, occulte, à être tout seul, tout Israël. Et nous sommes visités par de tels grands, les Yechidim, de siècle en siècle, de génération en génération. En général, on s'en aperçoit que beaucoup plus tard après. Je vous citerai un exemple qui m'a beaucoup, beaucoup frappé. La grandeur du Malbim. Je n'ai pas entendu parler du Malbim, la grandeur du Malbim. Or, le Malbim, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques générations, était un chef de communauté inconnu et qui a eu des histoires épouvantables dans sa communauté. Et puis, quelques temps après, se dévoile la grandeur inouïe du Malbim, ou ne serait-ce que le Maharal, qui est maintenant très connu, grâce à ce qu'il étudie, la grandeur du Maharal. Mais au temps de ses contemporains, c'était un petit juif parmi les autres. Et alors voilà, en quel sens je disais qu'il ne faut pas les prendre comme modèle. Pas du tout dans le sens que vous avez dit, Dafka, en tout cas dans ce séminaire. Pas du tout pour faire comme eux dans les dimensions évidemment positives du récit. mais pour prendre prétexte de ce qu'ils sont les modèles, pour se donner le droit de faire comme eux dans les périls que je suis en train de vous décrire. Et pour vous donner un exemple simple, d'ailleurs que cite le Nefesh HaChaim, que je vous ai cité tout à l'heure, le Rav Chaim de Volozhin, il dit ceci, qu'on ne vienne pas nous dire, puisque Jacob a eu le droit de prendre deux sœurs comme femmes, ce qui est interdit par la loi, eh bien, puisque Jacob l'a fait, je peux le faire aussi. Eux vivent Berumon Shel Olam. Eux vivent l'histoire collective de la constitution de l'identité d'Israël. C'est d'abord du mauvais goût de prétendre vouloir les imiter. Et vous comprenez, je suis gêné en français, parce qu'en français, il faudrait dire imiter et pas plus. Mais ils sont nos guides, nos figures de proue pour éclairer notre histoire collective. Mais ils ne sont en rien des modèles individuels. Parce que, surtout dans des époques de charnière, dans des époques d'options, dans des époques où il faut choisir, au temps de qui sommes-nous, au temps de Joseph ou au temps de Moïse, alors c'est la collectivité d'Israël qui choisit. Et ce n'est pas une question de nombre numérique. En ajoutant 1 plus 1 plus 1, si chaque 1 est un 0, on a toujours 0. D'accord ? Le nombre ne fait rien à l'affaire. D'accord ? Mais il s'agit de choisir le choix de la collectivité d'Israël en tant que klal, et non pas de la somme des individus qui, eux, peuvent rester dans l'errance en tant qu'individus. Et voilà un peu ce que j'ai dans ce sens-là. Alors voilà, vous me permettez de récapituler, parce que là, c'était une question très importante. D'accord ? Je ne sais plus qui m'a dit un jour, quelqu'un d'entre vous d'ailleurs, même s'il n'est pas là, c'est quelqu'un d'entre vous, qu'il y avait une fois une comparaison qui a été faite par un auteur contemporain avec le peuple allemand. Et alors que les individus allemands, à l'échelle individuelle, peuvent être de très grands hommes, en tant que collectivité, c'est le contraire. Et alors qu'en Israël, il semble que ce soit Israël le peuple, il semble que ce soit l'inverse. Les individus peuvent être très médiocres, mais comme collectivité, c'est la grandeur. Et nous ne pouvons pas ne pas être impressionnés par cela. Israël, comme peuple ayant traversé l'histoire, c'est un colosse. Les Juifs, nous pouvons être tous très médiocres et plus que médiocres, mais à l'échelle individuelle. Ken ?
Oui, oui. Par son aspect féminin, qui est la femme de Putiphar. Et là, il n'a de salut que dans la suite. Alors, quel est le sens de cela par rapport à ce qui se passe lorsque Joseph est face au clan de la civilisation égyptienne, représenté sous l'aspect masculin par Pharaon, et où là, effectivement, il parvient à parler, il parvient à faire le rapport avec Dieu, et Pharaon parvient à reconnaître qu'il est animé de l'esprit de Dieu. Alors, pourquoi quand l'autre civilisation...
Vous avez imputé au pharaon ce qu'il est dans ce texte à Poutifar lui-même. Ben, mais enfin, ça vient. Mais voilà, ce pharaon est versatile. Et au début du livre de l'Exode, il y aura ce fameux verset. Vayakom melech hadash asher lo yada et Joseph. Et il s'est levé un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph, qui ne voulait plus entendre parler de lui. C'est le niveau de versatilité qui mène au stade de l'ingratitude, etc. Et là, dans cet aspect masculin, c'est le tyran qu'il va rencontrer. Et même lorsque le tyran est aimable, finalement, il est tyran. Rappelez-vous les détroits du tyran.
Ma question, c'est pourquoi Israël parvient-il à parler à l'aspect masculin de l'autre civilisation et ne parvient pas à parler d'une façon probante à l'aspect féminin de l'autre civilisation.
Je crois que vous avez répondu par anticipation. En ce sens que ce qui est en question entre eux est d'une toute autre nature. Il peut y avoir un rapport périlleux entre Israël et l'aspect féminin de la civilisation, Mme Poutifar, parce que les engendrements sont en question. Il n'y a pas de péril. C'est la raison pour laquelle, je vous dirais, ce danger, ce péril n'apparaît que quand la civilisation de l'extérieur, et dans ce cas précis, arrive à son apogée, avec une grande capacité de fécondité, elle l'a prouvé d'ailleurs par la suite, mais non fécondée. Très bien. Oui, excusez-moi, la plus.
Je crois que la question qui avait été posée tout à l'heure par l'intervenant est extrêmement importante, même pour toute la signification de l'exil de la séduction réciproque entre Joseph et la femme de Potiphar, une espèce de réaction vivante. Mais après tout, Joseph a essayé aussi de séduire, il n'a pas refusé, semble-t-il, les avances de la femme de Potiphar. Il y a tout un jeu dialectique. Et au moment où la femme de Potiphar, d'ailleurs comme tu l'as montré également, s'attend à ce que ça se réalise, il y a un refus de Joseph, donc Joseph semble... C'est très important, c'est toute la dialectique de la galoute qui est en cause. Il y a peut-être un midrash qui est cité d'ailleurs dans Torah Shlema, c'est le midrash 54.